Munich. Sa qualification est encore plus incertaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'RFI. Tout de suite donc, le décryptage.
Radio G. 101.5 FM.
Du vendredi 29 au samedi 30 novembre 2024, le défi 24 heures Angers Téléthon vous invite à venir marcher ou courir dans la bonne humeur à l'étang Saint-Nicolas à Angers pendant 24 heures. Avec 40 000 km comme objectif à faire tous ensemble, sur place et même chez soi sur un tapis de marche, n'importe où en France. Profitez d'un village d'animation avec restauration sur place et d'une ambiance festive. Le défi 24 heures Angers Téléthon, du vendredi 29 novembre à 16h au samedi 30 novembre à 16h. Plus d'informations sur défi24h.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Mercredi, jour des sorties cinéma. Je dis ça, je ne dis rien. Dans cette émission, nous aurons bien évidemment des invités que je vais annoncer d'ici peu, mais aussi des chroniques et des reportages. La drôle de vie de Léo Nagral, par exemple. Incroyable, ce garçon. La bouteille aux trois quarts vide de tonton aussi en fin d'émission. Incroyable, ce tonton. Et on va pédaler aussi avec toi, Nolwenn. Bonsoir, Nolwenn.
Bonsoir, exactement. On va pédaler un petit peu pour livrer de la lessive, mais j'en dis pas plus.
Oh, tu dis même pas le nom de qui avec qui tu vas.
On sera avec Sapo & Co.
Voilà.
Cyclo, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire.
Sapo, Cyclo, c'est le milieu de semaine. C'est normal, Nolwenn. Ce sera autour de 18h30 à peu près. Et ce soir, donc, on va s'intéresser à La Poste. Alors, Nolwenn, ça t'évoque quoi, La Poste? Ta maman?
Et ma maman, exactement.
Parce qu'elle est factrice, mais ça n'a rien à voir, puisqu'on va bien parler de la post-production de films, une étape cruciale dans la production, réalisation audiovisuelle. Quand on connaît un petit peu ce monde, on imagine que tout ça, ça se passe à Paris. Et bah non, puisque ici aussi, à Angers, il y a des choses au Pont-de-Cé. Précisément, il existe des studios de post-production. Qui, quoi et comment? Qu'est-ce que La Poste? La Poste, c'est le nom de ce dont on parle ce soir. Et ben, on va répondre à ces questions avec Charlie, qui est plutôt parti son. Puis Mathieu aussi, d'ailleurs, qui est parti son, puisqu'il est compositeur. On va vous expliquer leur rôle et ce qu'est La Poste, puisque ce sont eux qui ont créé La Poste. Nous allons tout vous dire ce soir dans Topette. Et Topette, justement, c'est où, quand, comment? Nolwenn, maintenant qui sait bien, puisque tu as animé pas mal de fois cette émission.
C'est de 18h10 à 19h, en direct sur radio-g.fr et le 101.5 FM. Et c'est aussi sur les réseaux @topette. Juste Topette Radio G.
Ouais, il va falloir aller dormir après, Nolwenn, je pense. Et c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette. Avec Pierre Benoît.
Allez, avant de recevoir nos invités, Nolwenn, je te propose de partir en balade avec Camille. Où est-ce que tu aimerais aller ce soir? Est-ce que tu as des petites idées sorties avec Camille?
Franchement, j'en ai pas, je sais pas. Du côté de la Loire, un truc comme ça.
Ouais,
ça
je te propose. Non, on va plutôt se mettre au chaud si ça te dérange pas. Je crois
qu'elle
nous propose ce soir d'aller au musée Pincé. Juste après, on reçoit nos invités.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à l'hôtel Musée Pincé à Angers. Il se situe rue Le Neuleveu et c'est un édifice majeur de la Renaissance. Prends tes billets et allons-y. Ça fait longtemps que je voulais le découvrir. Pas assez de temps, peu d'horaires d'ouverture, mais aujourd'hui, ça tombe parfaitement. Un premier tour dans la cour permet d'observer de plus près l'architecture. Des gargouilles, anges, blasons, des fleurs, les murs sont richement décorés. Rentrons dans le musée. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons une exposition temporaire sur les spectacles à travers le temps et dans le monde. Nous découvrons des masques d'artistes, des marionnettes ou encore des instruments de musique. Les salles sont très belles et les expositions sont joliment mises en scène. Un peu plus loin, on peut faire sa propre lithographie. Un petit poisson rouge et bleu fait à la main. Vas-y, fais le tien, c'est un joli souvenir. Nous montons les marches menant au premier étage. L'exposition permanente permet de découvrir des objets des civilisations antiques, méditerranéennes, précolombiennes et asiatiques. De nombreuses pièces permettent de se plonger dans l'histoire et d'y découvrir des objets rares. vases grecs, sarcophages égyptiens, masques japonais, statuettes. Un dernier tour des œuvres historiques et nous redescendons dans la cour intérieure de l'hôtel-musée. Mais d'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on l'hôtel-musée ? Avant le XVIIIe siècle, le bâtiment appartenait à de riches familles nobles de l'Anjou. Il a ensuite été transformé dès le XIXe siècle en musée, déjà dans le but de découvrir des civilisations antiques étrangères. Allez, on file, allons se balader un peu dans le centre-ville d'Angers. Pas encore rassasié ? Très bien, sache que la collégiale Saint-Martin, plus vieille église d'Angers, promet une belle découverte. Un petit plus, sa crypte permet de découvrir des vestiges mérovingiens et gallo-romains. Tu m'en diras des nouvelles. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous !
Partout en balade avec Camille en Maine-et-Loire, mais aussi dans Pays de la Loire, Nolwenn, c'est à retrouver où tout ça ?
C'est à retrouver en podcast sur le site de Radio G, dans l'onglet Podcast Plus.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On accueille
notre invité de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et ce soir, nous sommes avec même nos invités, puisqu'ils sont deux autour de la table du studio. Bonsoir Charlie.
Bonsoir.
Et bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Alors, ce sont des voix qu'on va entendre tout au long de ces 50 minutes qui arrivent pour nous parler de La Poste, sans E à la fin, c'est avec un T fermé, comme ça, La Poste Production, une équipe de plusieurs personnes dont vous faites l'étendard, les représentants ce soir dans l'émission, qui propose donc simplement des activités qui tournent autour de la post-production, de films, de réalisation audiovisuelle, bien évidemment. On va essayer de dégrossir tout ça, déjà présenter la structure, mais aussi ce qu'est cette activité, même au sens beaucoup plus large, Charlie et Mathieu, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, parce que Nolwenn, je ne sais pas si elle a fait un bac option ciné au lycée Renoir, par exemple.
Pas vraiment.
Si on devait présenter simplement les choses sur la production audiovisuelle, parce que c'est vrai que nous, on va en salle, on voit des films, mais derrière, il y a toute une économie, tout un écosystème. Comment on pourrait expliquer tout ça simplement, Charlie, toi qui as les termes ?
Alors, en fait, la post-production, comme son nom l'indique, c'est ce qui arrive après l'étape de production qui consiste au tournage du film. Donc, la post-production commence lorsque le tournage d'un film se termine. Et donc là, on va récupérer toutes les images et les sons du tournage pour déjà les synchroniser. Puis après, l'étape de montage image va commencer pour choisir les meilleures prises, les mettre dans un certain ordre, définir la durée de chaque plan, trouver une dynamique. À ce moment-là, on parle souvent de la deuxième écriture d'un film, enfin même de la troisième, pardon, parce que la deuxième étant le tournage, la première, le scénario. Donc c'est le dernier moment où on va réécrire le film avec le réalisateur qui est présent, ou la réalisatrice qui est présent tout au long de cette étape, ou en tout cas très souvent. Et après, une fois que les images du film sont déterminées, sont définies, on va s'attaquer à faire le montage son, qui est là, on va rajouter des sons sur ces images, on va enrichir le son du film, nettoyer ce qui existe et enrichir par ailleurs. Et puis enfin, on aura la dernière étape au son qui est le mixage. On va donner une hiérarchie à tous ces sons. On ne crée plus de sons à ce moment-là, on les transforme et on les hiérarchise au niveau du volume sonore et de la spatialisation. C'est à ce moment-là aussi où la musique arrive en studio de mixage pour l'incorporer. Et puis l'étalonnage, c'est la finition de l'image, la sublimation de l'image au niveau des couleurs et de la lumière.
Eh ben voilà, on a toutes les étapes de post-production. Je sais pas, Nolwenn, si t'as bien saisi les termes techniques.
J'ai tout compris et je trouve ça vraiment super intéressant comme métier. Vraiment, c'est fascinant.
Voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec les vidéos YouTube, on entend beaucoup parler de la prod, la production. Donc la production, ce sont toutes les unités qu'il y a avant la réalisation qui mettent en place. On entend parler du montage aussi, des monteurs. Mais c'est plutôt affilié à ça, du coup, dans l'univers du cinéma, la post-production que tu viens de décrire, Charlie, tout simplement. Si on résume les métiers pour que ce soit assez clair, parce qu'il y a aussi de la musique. Mathieu, toi, tu fais de la musique. Donc il y a étalonnage, son, montage, composition, c'est ça, Mathieu ?
Oui, c'est ça. Charlie a bien expliqué un petit peu dans l'ordre chrono. C'est vrai qu'on c'est toujours difficile de parler de la musique parce que la musique peut intervenir vraiment à différents moments de la chaîne de post-production. Mais souvent, comme l'a dit Charlie, les tâches vont s'effectuer, les compétences vont intervenir dans cet ordre-là. C'est-à-dire d'abord réceptionner tout le matériel qui a été tourné, s'occuper du montage image. Le montage son peut être fait en parallèle.
Charlie, non.
Enfin, si ça peut. Normalement, on essaie de quand tout se passe bien, on essaie d'intervenir une fois que l'image est arrêtée. Après, il peut y avoir des retouches.
Oui, c'est vrai. Et mixage, étalonnage image. Mais la musique peut être faite à n'importe quel moment de session, voire même parfois quand on connaît, par exemple, déjà le réalisateur, la musique peut déjà commencer à être composée dès le stade du tournage. Ça, c'est assez rare, mais il y a parfois des réalisateurs qui connaissent déjà leur compositeur et qui peuvent même parfois diffuser sur le tournage des éléments musicaux déjà composés expressément pour le film et mettre du coup les acteurs dans une certaine dynamique. Et la musique peut aussi être faite à la fin, au moment du montage son, quoi qu'il arrive, avant le mixage évidemment, parce que le mixage, c'est le moment sonore où tout va être mis en hiérarchisation, comme disait Charlie.
La post-production, c'est une action, une activité qui est bien spécifique au cinéma, à la production audiovisuelle, où on voit ça par ailleurs, je sais pas si dans les albums, par exemple, dans l'univers musical, est-ce qu'on a des choses comme ça aussi, ou c'est vraiment spécifique à l'écosystème des films, du cinéma, Charlie?
Bah, disons que ça va être la même chose pour les albums musiques, sauf qu'il n'y a pas a priori d'image. Ou alors on parle de clip, mais sinon dans les albums, on va avoir la phase de, on va retoucher les prises qui ont été faites à l'enregistrement. Donc ça va être un peu l'équivalent du montage image au cinéma. On va écouter les prises, on va choisir les meilleures, on va les mettre dans un certain ordre, et on va éventuellement tricher en prenant un bout d'une prise et la coller à l'autre bout d'une autre prise. Et après, mais ça c'est Mathieu pourra plus en parler. Il connaît très bien aussi l'enregistrement musical. Mais après, on va une fois qu'on a tout monté dans le bon ordre avec les bons moments de prise qui nous a intéressés, on fait le mixage. C'est juste qu'il n'y a pas l'étalonnage.
Oui, c'est vrai. On peut pas vraiment comparer. En fait, dans l'univers purement musical, quand on parle pas de musique à l'image, mais de musique, par exemple, les gens qui font des albums, toutes les étapes nécessaires à la production, par exemple, d'un album de musique vont se retrouver dans la chaîne de post-production d'un film, mais uniquement géré par le compositeur. C'est-à-dire que le compositeur de la musique va devoir composer une musique, imaginer un instrumentarium, commencer à réaliser des arrangements musicaux, mixer aussi la musique. Tout ça, c'est la partie composition de la musique qui va être intégrée à la chaîne de post-production. Mais quand on enregistre un album sans image, enfin comme les gens qui sortent des albums qui vont être après sur Spotify ou sortir en disque, etc., on parle pas vraiment de cette distinction entre production et post-production. C'est plutôt production d'un média musique qui va jusqu'au mastering. Voilà.
Pour rester sur l'image, du coup, Mathieu, Charlie, la post-production, c'est pour toute forme, ça va du documentaire au cinéma, au film d'entreprise. La post-production, il y en a partout, en fait, dès qu'il y a, pour rester sur le monde de l'image, en tout cas, Charlie.
Bah, tout dépend du média sur lequel sera diffusé le projet audiovisuel. Si c'est une salle de cinéma, il y a évidemment un certain travail de forme auquel le public s'attend et qu'il faut du coup et qu'il faut fabriquer. Et on peut évidemment, on n'aura pas la même exigence pour un produit qui est destiné à être vu dans une salle de cinéma que une petite publicité sur le web ou juste une petite vidéo de communication d'entreprise. On n'aura du coup pas les mêmes exigences et du coup pas le même travail de post-production.
Oui, par exemple, on peut dire qu'un YouTuber qui fait ses posts tous les jours, à lui seul, il rassemble lui-même toutes les chaînes de la post-production.
Oui, parce que du coup, le format de diffusion ne nécessite pas d'aller très très loin dans, par exemple, les questions d'étalonnage, de spatialisation du son et tout ça. Donc en fait, ça dépend. C'est vraiment le support de diffusion qui va déterminer l'ampleur de la post-production nécessaire. Et justement, il y a à peu près tous les métiers de toute la post-production possible et imaginable à la Poste, du coup, la Poste, votre société, dont on va parler dans quelques instants maintenant, Mathieu et Charlie. Je vous propose une première pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Illusion de Théophile et on revient tous ensemble juste après.
Tes pieds, quand j'ai changé mon visage, pourtant j'appréhende toujours le fait d'un mauvais présage. Il faut que tu saches, pendant ce temps, on a chacun tracé nos routes. J'ai cimenté mon âme de cran et courbez les voûtes. Ce n'est qu'une illusion, tire les mains des yeux, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que moi derrière, tu n'as pas à t'en faire, je suis toujours honnête. J'ai besoin que tu me vois tel que je suis aujourd'hui. En apesanteur, j'aimerais croire qu'on s'aimait tant. Je sais mon chemin vers d'autres lignes que j'ai découvert en marchant. Tu sais, cette passion qui nous lie peut nous ramener bien comme avant à nos étoiles que nous aimions. Un saint principe de transition. Ce n'est qu'une illusion. Retire les mains des yeux. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que moi derrière. Pas t'en faire, je suis toujours honnête. On a vécu plein de choses ensemble. On a vaincu plein de choses ensemble. Nous étions perdus ensemble, on s'est soutenus. On a joué à qui pourra s'évader le premier. On a joué.
Illusion de Théophile sur le 101.5 FM à l'écoute de
Topette sur Radio G.
Et ce soir, on s'intéresse à la post-production, la technique de post-production, les métiers qui y sont associés, mais aussi à la poste. Nos invités de ce soir, représentés par Mathieu à ma gauche. Ça va toujours, Mathieu ?
Très bien, très bien.
Et Charlie à ma droite. Bonsoir, ça va toujours Charlie ?
Ça va très bien.
J'essaie de spatialiser aussi, de faire un peu de post-production pour l'émission d'anticiper. On a parlé déjà de ce que c'était la post-production juste avant, la pause musicale. Si maintenant on parle de vous concrètement, La Poste, c'est une équipe de plusieurs personnes qui sont en lien donc avec la post-production audiovisuelle. Vous êtes situé au Pont-de-Cé. Le nom précis de l'endroit, Charlie, je l'ai perdu.
C'est Rivedard.
C'est Rivedard, c'est bien celui-là. Voilà. Alors déambulons, parce que tu m'as fait la visite l'autre jour, Charlie, prends les auditeurs, auditrices par la main et puis donne-leur un petit peu à voir, spatialise-nous la poste, à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs chambres ou ateliers, ça dépend du terme.
Donc, alors faut savoir que Rivedard, c'est une ancienne manufacture hameçon qui a été réhabilitée par la mairie des Pont-de-Cé, donc c'est la propriété de la mairie des Pont-de-Cé. C'est un espace, un grand forum qui accueille des expositions temporaires qui durent 2 ou 3 mois. Et tout autour de ce forum, nous avons 10 ateliers. Des ateliers qui sont pour certains réservés à de l'artisanat d'art. Enfin, disons que les premiers occupants, lors de l'inauguration en 2016, ont été luthiers, peintres, enlumineurs, de la céramique. Voilà, il y a eu vraiment plein de cordes de métiers différents. Et nous, on a commencé à 2 ateliers. Aujourd'hui, on en a 4 sur les 10. Alors 4 qui peuvent être vus comme étant 5 parce qu'à l'intérieur d'un atelier, on a 2 locaux séparés. Voilà. Donc on a 5 locaux pour 5 personnes puisque nous sommes 5 associés.
Et Mathieu, est-ce que tu pourrais me citer de tête, j'imagine que oui, les différents métiers. Donc il y a de l'étalonnage. L'étalonnage, j'ai perdu son prénom, mais je sais qu'il y a Cécile au montage.
C'est ça. Il y a Cécile Prader au montage, Samuel Robin à l'étalonnage. Nous avons Étienne Chambol au mixage son, Charlie Sénéco ici présent au montage son et aussi parfois au mixage, et moi-même Mathieu Coupa à la composition de la musique.
Alors ce serait peut-être intéressant aussi de donner à voir ton atelier bien précisément, Mathieu, parce que c'est un vrai studio de musique, hein. Moi je m'imaginais pas ça, t'as même une cabine à l'intérieur éventuellement pour faire des voix complémentaires, t'as un piano aussi, t'as plein d'instruments, on va poser plutôt la question de quel instrument tu n'as pas, ce serait peut-être plus simple.
C'est une bonne question parce qu'il y a des choses qui me travaillent en ce moment. Oui, donc moi je suis pianiste depuis l'enfance, enfin, je fais du piano depuis tout petit, c'est mon instrument de prédilection. Mais vu que j'ai la fibre composition, j'ai appris au fur et à mesure de ma vie à jouer d'autres instruments. Donc, je peux me débrouiller à la guitare, basse, batterie, etc. Toutes sortes de petites guitares que tu as dû apercevoir au studio. Et j'écris, j'ai aussi appris jeune à écrire pour orchestre. Donc, ça fait partie aussi des choses que j'utilise quand je compose la musique. Donc, je sais écrire pour orchestre, notamment orchestre à cordes. Et j'aime beaucoup ce son-là. Donc, parfois, quand le budget le permet, j'enregistre des vraies cordes. Parfois, ça va être simulé par ordinateur. Et là, je me dis, ça me démange depuis trop longtemps. Je vais apprendre, moi, quand même, à jouer du violon. Parce que c'est un peu ma frustration. Il y a encore des instruments que je ne sais pas. Je joue un peu devant, du saxophone. Enfin, je peux faire des nappes, par exemple, sur une musique de film. Mais c'est vrai que le violon, c'est particulier. J'aimerais bien aussi être capable juste de faire quelques petites nappes en vrai sur les musiques de film. Donc, je pense que avis aux gens qui me connaissent, j'aimerais bien un alto, un violon alto pour Noël. Voilà.
On va faire une cagnotte en ligne si ça te dérange pas. Les nappes, hein, c'est les environnements sonores, les ambiances sonores qui sont derrière comme ça en sous-couche. Hein, je pense que c'est ça le terme.
Oui, pardon. Oui. Quand on fait c'est un terme qui est très employé en musique de film parce que c'est ce que, par exemple, j'ai un réalisateur qui va pas savoir exactement comment me dire de faire une musique qui prend pas trop de place, il va dire je veux une nappe. Comme ça, il est sûr que je ferai pas un gros thème à la John Williams que tout le monde écoutera. Il veut qu'on garde, que le spectateur soit vraiment scotché à l'image et il faut juste quelque chose qui soutient derrière. On dit une nappe. Et musicalement, pour les musiciens qui nous écoutent, ça va basiquement être un drone musical, par exemple un son de synthé ou d'orchestre qui change pas beaucoup, quoi, sur une basse, sur un bourdon. Autrefois, on pouvait dire un bourdon.
Ok, on va de plus en plus loin dans les termes techniques. On va enrichir notre lexique avec Nolwenn ce soir. Le lexique, quand même, le mot important à retenir, c'est la Poste, le nom de votre société. Vous êtes plusieurs associés. Charlie, comment tu présenterais, toi, les choses, tout simplement, maintenant que tu nous as décrit un petit peu le lieu? Vous êtes tout simplement une société de post-production, en fait.
Oui, c'est ça, avec la particularité, effectivement, d'avoir... parce que là, dans une société de post-production, classiquement, on a les métiers, du coup, technique image et technique son, qui se côtoient, et d'avoir Mathieu dans parmi les cinq associés de La Poste, c'est un plus qu'il faut évidemment, c'est super qu'il soit là, parce que effectivement toutes les sociétés de construction n'ont pas habituellement ce genre de personnes comme ça en résidence permanente dans les locaux, et donc on a la chance d'avoir Mathieu qui travaille très souvent d'ailleurs avec sa collègue Camille Després pour pouvoir composer la musique et d'avoir cette capacité là de proposer de la musique originale de film. C'était clairement un plus que n'ont pas la plupart des sociétés de post-production.
Et il n'y a pas que ça, on est bien d'accord, il y a le montage, parce que là ça laisse penser que, mais non, il y a
évidemment à nous cinq avec Mathieu, on peut offrir toutes les prestations que pourrait demander une société de production du visuel qui aimerait avoir son film fini en post-production. Il faut juste maintenant le fait de faire venir les gens de Paris, c'est ça, ce à quoi on s'attaque en ce moment. Comment réussir à les faire venir, les faire sortir un peu de la capitale pour avoir l'envie de faire un petit tour en Anjou et mêler l'utile à l'agréable.
Oui, parce que justement, pour qu'on précise, vous êtes en B2B, comme on dit, c'est-à-dire vous vous adressez à des sociétés professionnelles. On peut pas, nous, en tant que particuliers, ce serait techniquement possible, mais j'imagine qu'il y a des conditions de budget, de mise en place qui font que vous êtes plutôt à destination des sociétés de production audiovisuelle, hein, clairement.
Tout à fait. Après, c'est toujours une question de... Enfin, c'est du cas par cas. Quelqu'un qui a envie de mettre son argent propre dans le film et qui a travaillé correctement et qui souhaite que ça soit... que le travail soit qualitatif à la fin, voilà, on a déjà et on peut recevoir ce genre de personnes, effectivement.
Il y a des collectivités aussi, je crois, hein, qui font appel à vous parfois. Pour des films d'entreprise, par exemple.
Bah, justement, en ce moment, je crois que Mathieu, tu travailles sur un film pour la mairie d'Angers.
Ouais, on travaille sur la musique avec Camille, ouais, des vœux de fin d'année de la mairie d'Angers. Et toi aussi, avec Étienne, vous travaillez assez souvent sur des projets.
Tout à fait, des films institutionnels, ouais. Des films qui vont être commandités par la région, le département, ou même des boîtes privées.
J'ai l'impression que la seule chose que vous ne faites pas, c'est le doublage voix française, en fait. Vous n'avez pas de films étrangers qui viennent.
Alors, on peut faire des enregistrements de voix off pour des documentaires, par exemple, ou de temps en temps, on a des, même en fiction, on a besoin de temps en temps de refaire venir des comédiens ou comédiennes pour faire ce qu'on appelle de la post-synchronisation, puisque, voilà, au tournage, ça, pour X raisons, ça n'a pas pu, on n'a pas pu obtenir le résultat escompté. Du coup, il faut faire revenir le ou la comédienne pour refaire un petit bout de phrase ou un petit bout de ligne de texte du scénario. Et donc ça, c'est comme ça qu'on utilise notre cabin speak que tu as vu dans la chambre de Mathieu. Mais effectivement, le doublage, on le fait pas. C'est souvent des grosses machines parisiennes, là, pour le coup, qui sont équipées avec des bandes rythmo, avec tout un arsenal technique qu'on n'a pas à la poste et que je pense qu'on aurait difficulté à avoir. Ça serait vraiment un autre taf.
Et la chambre de Mathieu, c'est bien le nom qu'ils donnent à leur atelier. Hein. Rassurez-vous, je n'ai pas été chez Mathieu pour découvrir sa chambre à proprement parler. Nolwenn, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? C'est un univers que tu découvres, j'imagine.
Ouais, je découvre. Bah, moi, du coup, je connaissais plus la post-production. Enfin, j'entendais parler de la post-production des vidéos YouTube, mais c'est vrai qu'on pense pas forcément aux films institutionnels de la région, comme vous avez dit, et tout ça. On n'y pense pas.
Ouais, les films, en fait, c'est ce qu'on a dit, et d'ailleurs, on pourra en reparler dans quelques instants. C'est l'étape finale des grandes productions cinématographiques aussi qui se jouent à ce moment-là. Donc, c'est très important comme travail. Et quelle incidence ça peut avoir sur la conclusion finale de la réalisation? Vous allez nous en parler dans quelques instants. Avant tout ça, on fait un petit détour par La Drôle de Vie de Léona Grall. Et tout à l'heure, on va monter en selle avec toi, Nolwenn.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Tout le monde sait que travailler dans la restauration n'est pas de tout repos. C'est pas tout le monde qui en serait capable.
Bon alors, c'est toi Jimmy ?
Oui, c'est moi Jimmy.
Très bien, alors Jimmy, première chose, commence par t'habiller correctement.
Oups, oui, vous avez raison. Jimmy, mon tablier à l'envers.
Faut faire attention.
Désolé, je suis assez distrait.
Bon, toi, tu vas essentiellement t'occuper du service.
Quel service ?
Bah tu vois, on a toutes sortes de services. Le service de soins, le service manucure, la station service.
Ah oui, c'est intéressant.
Mais toi, pour commencer, tu vas t'occuper uniquement du service des plats.
Ah d'accord.
La première étape, c'est de prendre la commande du client.
Ok.
Ensuite, tu annonces la commande en cuisine.
Oui.
Et après, tu ramène les plats au client.
Et si jamais je ramène les plats au client et qu'il est pas satisfait?
Alors dans ce cas, tu ramènes les plats en cuisine.
Et si jamais le client ramène sa fraise et critique mon service?
Alors dans ce cas, tu ramènes ton cul ici pour que je te vire vite fait bien fait.
C'est noté. J'espère être à la hauteur.
Bon, t'inquiète pas, les assiettes sont rangées à même pas un mètre de haut.
Ah bon?
Tu devrais pouvoir être à la bonne hauteur.
Non mais le truc c'est que je faisais pas ce métier avant.
Ah ouais, tu faisais quoi?
J'étais jongleur au cirque.
Bon, c'est pas un problème ça. Notre chef cuistot était bûcheron avant.
Ah c'est vrai?
Ouais ouais.
Chef, une côte de bœuf pour la deux.
OK.
Ah ouais?
Ah, et je te présente Charles, notre deuxième cuistot.
Salut.
Bonjour.
Tu peux lui expliquer ce que tu fais, Charles? Il est nouveau.
Alors là, tu vois mon petit, je suis en train de dresser les assiettes.
Ah, et ça va, elles se laissent bien dresser?
Oh, de temps en temps, il y en a quelques-unes qui sont un peu farouches, mais globalement, le dressage se passe bien. Ah, tu vois, il y en a une qui est mal dressée là, par exemple.
En effet.
À l'inverse, si tu regardes celle-là... Allez, va chercher!
Ouh.
Tu vois, elle ramène le bout de bois en deux secondes. Essaye de dresser une assiette mieux que ça, tu verras.
Ah ouais?
Bonne assiette, c'est bien. Allez, couchez maintenant.
Patron, on a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux?
Le traiteur a fait faillite, toutes nos commandes sont annulées.
Oh merde, fais chier. Faut qu'on en retrouve un, et vite, c'est urgent.
Bah oui, mais moi j'en connais pas d'autres, comment on va faire?
Oh non, non.
Ah bah attendez, je dois avoir la carte de mon traiteur sur moi. Vous l'appelez de ma part?
C'est vrai? C'est un bon traiteur?
Ah, c'est un excellent traiteur, probablement le meilleur que je connaisse. Tenez, appelez-le, c'est son numéro.
Ok, je l'appelle de suite. Super.
Saloperie d'enc*** de connard de merde de fils de p***.
Effectivement, c'est un excellent traiteur.
Je vous l'avais dit.
Bon, ça c'est réglé. Maintenant, tiens, il y a des assiettes qui sont prêtes.
Oh, mais ça sent bon ça, qu'est-ce que c'est?
C'est des pâtes au pesto.
Et qu'est-ce que j'en fais de ces pâtes au pesto?
Apporte-les au client illico pesto.
D'accord, et à quelle table je dois aller?
Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai dit à quelle table je dois aller.
Je comprends pas, désolé.
À quelle table je dois aller?
Sois plus clair.
Ouais, mais là, je peux pas répéter une fois de plus, j'ai plus rien à casser.
Ah mince, tiens, prends celle-là, c'est la dernière.
Merci, je voulais savoir à quelle table je dois les apporter.
Ah, autant pour moi, j'ai oublié de te dire, c'est pour la 7.
Ok, j'y vais.
En fait, non, laisse tomber, ça sert à rien, t'as tout cassé de toute façon.
Oups.
T'étais vraiment jongleur au cirque, toi, avant?
Oui, oui.
Ouais, bah plutôt bizarre pour un jongleur de pas être capable de porter des assiettes.
Ah non, mais quand je dis jongleur au cirque, c'est que je jonglais souvent entre le nettoyage des chiottes et le balayage de l'entrée.
D'accord, je vois. Tiens, mais ça me donne une idée. J'ai un truc pour toi.
Oh, qu'est-ce que c'est?
Un balai. Allez, au boulot.
La drôle de vie.
La drôle de vie de Léona Grall à retrouver toutes les deux semaines dans Topette. Topette qui, du coup, ce soir, monte en selle avec toi, Nolwenn.
Si Sidney Boivin et Édouard Pointel se sont lancés dans la fabrication de lessives artisanales qu'ils nomment lessive d'Anjou. L'histoire a débuté à la suite d'un burn-out professionnel. Édouard quitte son emploi dans l'aéronautique avec l'envie de lancer sa propre entreprise. Et l'idée des produits d'entretien lui arrive assez vite.
Si je crée mon entreprise, c'était pour promouvoir l'écologie. J'avais vu que il y avait une résurgence sur les produits d'entretien plus naturels. On a remarqué qu'il y avait aucun producteur sur Angers. Donc on s'est dit qu'il y avait un créneau à prendre, qu'on n'aurait pas de concurrence.
Il prend contact avec Sidney, qu'il connaît de longue date, et tous les deux se lancent.
Je le connaissais depuis une dizaine d'années, donc j'avais confiance en lui. On avait déjà collaboré de manière associative, et je cherchais surtout un travail qui soit en harmonie avec mes valeurs personnelles, et notamment avec des impératifs comme ne plus avoir la voiture pour aller au travail. On s'est dit oui en janvier 2022, et en fait toute l'année, Edouard était à fond sur la mise en place du business plan, etc. On s'est fait accompagner par la BGE et par la région des Pays de la Loire dans le cadre du parcours entrepreneur.
Les deux Angevins ont fait appel à un laboratoire pour concevoir leurs recettes. La liste n'est pas bien longue, 7 ingrédients d'origine naturelle.
On s'est dit, on va jouer la carte de la réduction du nombre d'ingrédients. Moins on va extraire des matières premières. Dans notre lessive, ça se traduit tout simplement, il n'y a pas de colorant. Donc c'est sa couleur naturelle. La lavandin, elle est jaune, elle n'est pas violette. Et il n'y a pas d'agent de texture non plus, donc elle est assez liquide. On a des matières premières qu'on mélange pour fabriquer un produit fini.
Plusieurs senteurs sont disponibles, lavandin, menthe poivrée. La plupart des ingrédients sont d'ailleurs locaux.
Les huiles essentielles de lavandin et de menthe poivrée, ils sont bio, ils sont locaux parce qu'ils viennent de Vendée. On a le savon qui vient de Nantes.
La lessive est fabriquée dans un espace aménagé de la maison d'Edouard. Les matières premières sont mélangées dans deux grandes cuves qui contiennent par voie plusieurs centaines de kilos de lessive qui sont ensuite transvasées dans des bitons et bouteilles en vrac. Car pour aller au bout de leur démarche écologique, ils ont choisi l'option vrac avec des bouteilles consignées 1 euro. Ça permet de réduire leurs déchets.
Là, je vais en faire que 10, mais des fois, je peux en faire 48 à 60.
Plusieurs fois par semaine, ils chargent leur cargo pour parcourir la ville à vélo et livrer leur point de vente et récupérer les bouteilles consignées.
On s'est dit qu'il faut faire un produit naturel et c'est dommage d'aller le livrer en camionnette. Surtout, nous, on voulait raisonner à une échelle locale. La plupart de nos clients sont sur Angers, donc ils sont à moins de 10-12 km grand max. On va aussi vite à vélo qu'à camionnette.
Ce mardi après-midi, le rendez-vous était donné à la Biocoop du boulevard du Doyenné à Angers.
Ce matin, j'ai livré le club de foot NDC qui lave leur maillot avec notre lessive. Et j'ai livré un drive à Bouvrier branché local. Donc, j'ai fait tout ça en une seule tournée. Là, on est à la Biocoop du Doyenné. On est venu pour livrer et récupérer quelques produits.
Fanny, la responsable du rayon non alimentaire du Biocoop, nous dévoile le succès des produits.
Ça marche hyper bien. Les gens sont contents d'avoir quelque chose de local. À chaque fois, on leur dit qu'on fera pas plus local que la place Ney, vu que c'est vraiment nos voisins. On a des très bons retours. Notamment, une des problématiques qu'on rencontre dans les lessives bio, c'est qu'en général, il y a très peu d'odeur qui reste. Et là, les leurs, ils ont l'avantage. Pourtant, c'est que des huiles essentielles, mais l'odeur restait plus longtemps que ce qu'on vendait d'autres. Ils aimaient beaucoup aussi la menthe poivrée, qui fait quelque chose de très frais et qui existe très peu en lessive.
Leurs produits sont d'ailleurs disponibles dans 36 points de vente à travers le département, en grande majorité dans l'agglomération angevine.
Vous allez avoir le réseau Caba, Biocoop notamment, qui référence nos produits. On a tout un tas de petites épiceries qui fournissent des produits en vrac ou des produits bio, des magasins plus conventionnels entre guillemets. On a un proxy dans le quartier Saint-Léonard. Puis vous avez aussi tout ce qui est drive de producteurs locaux, épiceries associatives.
À l'avenir, les deux entrepreneurs espèrent pouvoir être à la vente dans les supermarchés du Maine-et-Loire.
Ça prend beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on est dans un petit U-Express. On a fait un test aussi dans un Super U à Beaucouzé. Donc, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps parce que les gens sont moins habitués aussi aux bouteilles consignées, à la distribution vrac. Mais on ne désespère pas et c'est promesse d'avenir quand même.
Les prochains points de vente seront bientôt disponibles. Vous pouvez trouver toutes les infos pratiques sur le site sapoencyclo.fr.
Eh bien, merci beaucoup, Nolwenn, pour ce petit reportage avec Sapo and Cyclo, qui doivent avoir pas très chaud en ce moment à vélo. Hein. J'espère qu'ils ont des gants adéquats et qu'ils sont pas comme toi à trottinette, par exemple, sans gants, à se geler les doigts. On est toujours avec nos invités de ce soir. On va conclure tranquillement cette émission avec Charlie et Mathieu, deux des cinq membres de La Poste au Poncé, qui fait de la post-production. On en a parlé tout au long de ces 50 minutes, quasiment. T'es un peu... Première question, Charlie, toi qui as l'oreille, la post-production du montage de Nolwenn, ça va? T'as décelé des erreurs peut-être, des écarts de niveau, des gauche-droite?
On en parlera en off.
Voilà, on va attendre la fin d'émission, on en débriefera hors antenne. Plus sérieusement, sur la post-production, la poste du coup, qu'est-ce qu'il serait important de garder en tête? Des choses qu'on n'a pas évoquées, ne serait-ce que les ambitions par exemple, parce que c'est étonnant de trouver ça au Poncé. Moi c'est ce qui m'a surpris, j'imaginais que tout se passait à Paris, je l'ai dit en intro tout à l'heure. Mais finalement non, Mathieu et Charlie, vous êtes rencontrés à Paris je crois. Hein.
C'est ça, c'est exact.
Ouais, c'est... On a été, on est cinq maintenant, donc même six avec Camille qui est souvent en musique avec moi, qui est tout le temps en musique avec moi. Mais on s'est rencontrés un peu, c'est des sortes de binômes qui se sont rencontrés et on a été les premiers surpris de s'apercevoir que toutes nos compétences pouvaient se compléter pour proposer quasiment toute la chaîne de post-production. Et c'est l'un de nos atouts d'ailleurs qui nous permet d'être en compétition avec des compétences dans des villes un peu plus grandes, parce que nous on peut offrir l'opportunité de réaliser plusieurs étapes d'une post-production d'un même média dans les mêmes locaux, donc ça peut faciliter des allers-retours entre montage son, musique, image, etc. c'est l'une des choses dont on s'est aperçu et c'est un peu par hasard qu'on est arrivé là et qu'on a mutualisé nos compétences. Mais par exemple, dans les grandes villes, c'est assez rare d'avoir une boîte de post-production.
Ouais, que vous, de se regrouper, ça paraît, ça s'entend très facilement. Se retrouver au Poncé, ça paraît plus étonnant, Charlie, quand même.
C'était vraiment après les opportunités qui ont créé ce moment-là. On a d'abord cherché avec Mathieu, d'ailleurs, sur le parc privé Angevin. C'était compliqué, on trouvait pas forcément. En tout cas, il n'y avait pas d'aide, on va dire, de la mairie pour des gens comme nous. Ce qui était déjà différent au Poncé. Au Poncé, cet endroit de colocation proposait des loyers modérés. On commence bas et puis on termine un peu plus haut au bout de 3 ans pour confirmer que notre économie fonctionne. Et ça, c'est par exemple une aide qui était proposée au Poncé et qu'on n'avait pas trouvé ailleurs en Anjou, quoi. Donc c'était aussi l'occasion de, bien sûr, tout est important et l'aspect économique aussi.
Et finalement, de se décentraliser de Paris n'est pas un handicap, bien au contraire. Ça permet peut-être de réduire les coûts des locaux, de ce genre de choses.
Il y a des avantages et des inconvénients. Effectivement, là où on va payer moins cher en étant hors Paris, on va avoir peut-être la difficulté maintenant va être de faire venir les gens qui sont quand même très fortement regroupés dans la capitale. Et il faut les convaincre de venir à nous, quoi. Donc ça, c'est...
Oui, c'est vrai. Il y a des habitudes aussi qui, depuis notamment le Covid, les gens ont pris un peu plus l'habitude de bosser à distance. Les gens s'aperçoivent qu'on peut de plus en plus aussi, entre guillemets, déléguer en province des tâches. Et on s'est aperçu, en tout cas nous, que quand notamment des Parisiens venaient nous voir vraiment sur place, ils étaient tellement séduits qu'ils disaient « ça vaut le coup de faire le trajet ». Donc on commence à avoir des réalisateurs parisiens notamment qui viennent commencer leur post-production à La Poste, montage image, montage son et même parfois faire toute la chaîne. Ouais.
Et ce dont vous seriez le plus fier déjà maintenant de ce que vous avez fait avec La Poste, ce serait quoi, une post-production venue d'un producteur que vous connaissiez, dont vous êtes fier qu'il ait accordé sa confiance en vous, ou le fait même d'être ensemble, le fait même que ça marche, c'est quoi l'élément de fierté que vous pouvez en retirer, toi Charlie?
Clairement, c'est la rencontre humaine, d'avoir bâti cette société il y a 2 ans et demi. On a commencé à se connaître en 2019, donc ça fait 5 ans. C'est hyper enrichissant. Moi, je suis très fier de ce groupe, en fait, de personnes, parce qu'on apprend toujours à se connaître, même si Mathieu et moi, on se connaît depuis très longtemps. Voilà, on apprend à construire ensemble tous les cinq et à bâtir ensemble cette entreprise. Comment elle fonctionne, avec quelles conditions, qu'est-ce qu'on fait comme compromis pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est super, c'est hyper enrichissant humainement.
Même question, Mathieu.
Oui, moi je pensais aussi la fierté d'avoir découvert des talents vraiment en local, là je parle comme un parisien, mais enfin dans notre ville à Angers ou dans l'Anjou, des réalisateurs par exemple, on a la fierté d'accompagner quelques réalisateurs et dont des réalisateurs qui commencent donc par le court-métrage et qui sont assez prometteurs. Je pense à Nathan Villano, par exemple.
Je savais que tu sortirais ce nom. Ouais. Je l'avais en tête aussi.
Il y a aussi Victor Sesca. Enfin, c'est deux réalisateurs qui nous font de plus en plus confiance et qui viennent quasiment maintenant à chaque fois nous revoir, sachant qu'ils auraient aussi l'opportunité de bosser dans des plus grosses villes. Donc, ils sont conscients que la grosseur de la ville ne va pas forcément définir la qualité des prestations.
Et on va pouvoir justement conclure avec ce point qui est très important, c'est parce que c'est pas ce que ça laissait paraître au travers de mes questions, mais oui, à l'échelle locale aussi, il y a des réalisateurs, réalisatrices qui se professionnalisent et qui du coup peuvent avoir des solutions avec la Poste du coup. Alors, quelles seraient les informations pratiques à retenir, Charlie, concernant la Poste?
Eh bien, qu'on peut offrir toute la chaîne de post-production d'un film, et donc à un réalisateur qui aurait un projet à nous soumettre, il faut absolument qu'il vienne nous voir.
Au Pont de C.
Au Pont de C, évidemment.
Sur Instagram, TikTok? Non, vous n'êtes peut-être pas encore sur TikTok.
Sur Instagram.
Non, pas TikTok encore, ouais.
Mais pas TikTok.
Instagram, Facebook et LinkedIn, ouais.
Voilà, alors on va l'appeler quand même La Poste, sans E. C'est ça, hein?
C'est ça.
Voilà, LAPOST. Merci beaucoup, Charlie, d'être venu ce soir dans Topette, accompagné de Mathieu. Alors, pour rappeler vos intitulés de poste précis, Mathieu, tu fais de la composition musicale en post-prod, c'est ça?
Oui.
On peut dire ça comme ça. Et Charlie, toi, tu...
Montage son.
Montage son. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Nolwenn, pour... maintenant, on va débriefer avec toi, hein, pour savoir si tu as fait un beau... Comment tu dis?
J'ai la pression, là. C'est vraiment pas le même niveau de post-production.
Voilà, on va pouvoir en débriefer juste un instant. On va quand même se quitter ce soir avec une bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. On se retrouve demain pour de nouvelles agitations locales. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette.
Topette.
Eh bien, Tonton, tu me sembles abattu ce soir, comme si quelque chose te tracassait.
Ça se voit tant que ça.
Ah, il faut reconnaître que t'as une petite mine, mon tonton.
Bon, à toi, je peux bien le confier. Je découvre un sentiment dont j'ignorais tout et ça me perturbe. À mon âge canonique, je pensais avoir fait le tour de tout ce qui nous chahute le cœur ou le cerveau, c'est selon. Et puis, patatras, je m'aperçois que moi aussi, je peux... être jaloux.
Boah, allons. C'est à force de lire Shakespeare que tu t'es pris pour Othello?
Non, Pierre Benoît, ce vieux William n'y est pour rien et il est encore moins question pour moi d'accabler quelques belles Desdémone de mes soupçons infondés. Non, vois-tu, je suis jaloux de ce que ces pages, le magazine d'information de Brissac-Loire-Aubance que tu tiens entre les mains et que tu montres à la caméra, a osé écrire dans son dernier numéro. Honnêtement, j'aurais rêvé de trouver un titre aussi imprégné d'humour noir pour un article consacré au cimetière de la commune. Certes, j'écris assez peu d'histoires sur les cimetières de ma commune, ce qui fait que l'opportunité ne s'est guère présentée à moi.
Et donc, tonton, cet article sur le thème des cimetières avait pour titre...
La vie dans nos cimetières. Sobre, efficace, magistral, vu de mon humble fenêtre, total respect. Bon, tu peux arrêter de rire, Pierre Benoît, j'admets que le paradoxe soit assez saisissant, mais tout de même, tu pourrais, si tu n'as pas de compassion pour moi qui viens de trouver plus audacieux que moi en matière d'humour noir, aie au moins un peu de respect pour les défunts dont c'était la fête récemment. La vie dans nos cimetières. Tu avoueras que ça ne vient pas spontanément à l'esprit.
Ni aux fantômes.
C'est malin. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Bon, déjà qu'avec ce texte sur les cimetières, on n'est pas loin de l'article de la mort. Mais il n'y a pas que son titre qui mérite notre attention. Le contenu de l'article nous apprend notamment qu'une concession de 2 mètres carrés dans l'un des cimetières de Brissac-Loire-Aubance ne coûte que 400 € pour une durée de 30 ans. Évidemment, une offre pareille ne se refuse pas, surtout au prix qu'atteignent de nos jours les loyers du moindre boui-boui. Un rapide détour par votre calculette vous le confirmera. 400 € sur 30 ans, ça vous fait du 1 euro 11 par mois, soit 55 centimes le mètre carré. Franchement, ça n'est pas la mort. D'ailleurs, en cumulant mes salaires de bénévole à Radio G et au prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne, même moi, je peux m'offrir ce petit lopin de terre. Ça, c'est du logement social. Bien sûr, 2 mètres carrés, ça n'est pas bien grand. En même temps, depuis toutes ces années où l'on nous a tellement incité à nous recentrer sur l'essentiel, 2 mètres carrés, ça n'est déjà pas si mal. Notre riante commune de Brissac-Loire-Aubance, BLA pour les intimes, nous précise toutefois que si chaque habitant de BLA peut prétendre à être inhumé dans l'un des 11 cimetières municipaux, sa dernière demeure ne se situera pas obligatoirement dans sa localité favorite. Un plan B pourra lui être suggéré. Pour faire court, dernière volonté et premier choix ne sont pas forcément compatibles. Plus loin, en bas de page, l'auteur nous rappelle que perpète, c'est de l'histoire ancienne. À l'image des peines de prison, ce qui naguère était présenté comme définitif ne dure qu'un temps de nos jours. Eh oui, tout s'accélère. Et donc, que faire des défunts qui tapent l'incruste? La commune de Brissac-Loire-Aubance le souligne. Il y a nécessité à récupérer d'anciennes concessions pour les remettre sur le marché. Il faut toutefois, il faut toujours avoir en mémoire le destin des générations montantes, quand bien même ce destin serait funeste et juste inévitable. Place aux jeunes, en quelque sorte. Finalement, si l'on veut gloser autour de cette notion d'éternité, l'on se rend compte rapidement qu'il n'y a plus que pour faire durer un mariage que l'on fait des concessions à perpétuité. Mais revenons, après cette digression matrimoniale, à ce dossier spécial Champ de Navet. À sa lecture, j'ai également été attiré par deux encarts. L'un est consacré au tri sélectif.
Au tri sélectif, tu dis ?
Ne sois pas affolé comme ça, Pierre Benoît. On ne te demande pas de mettre dans un bac les ossements de Pépé et dans l'autre les viscères de grande Tata. Non, mon jeune ami. Il s'agit de séparer le plastique du périssable. Les fleurs fanées, en gros les types dans mon genre, disposant d'un conteneur qui leur est réservé. Et puis, j'ai relevé que BLA a décidé de se moderniser. Ainsi, bientôt, grâce à ton smartphone, il te suffira de te tourner vers un QR code à l'entrée du cimetière pour retrouver sans peine l'emplacement de ton défunt préféré. À notre époque qui transpire le modernisme, même les cadavres seront prochainement connectés. Et tu vois, je me demande si, plutôt que de prendre sans cesse le mort aux dents, je ne devrais pas, pour ma prochaine chronique, me montrer muet comme une tombe.
Encore un texte à retrouver sur ton site d'internet, lesaltimbouques.com.
Et en guise de bonus, je glisserai quelques photos glanées dans certains cimetières où l'humour est un peu le même que celui imprimé sur la feuille de chou de BLA. À bientôt.
Devant toi, des boutons d'or ont surgi comme la... c'est tout.